Rien qu'en 24 heures, les combattants d'Ansarallah ont mené plusieurs attaques aux missiles et de drones contre les positions de la coalition d'agression saoudienne. L'attaque par drone contre l'aéroport d'Abha dans le sud de l'Arabie saoudite, une attaque de drone contre la base King Khalid à Khamis Mushait, une attaque au missile contre la base militaire d'Al-Anad dans la province de Lahej, une attaque au missile contre la base Sahn al-Jin dans le nord de la ville de Ma'arib et une attaque au missile contre Jizan. Comment la résistance yéménite à travers cette nouvelle vague d'attaques a-t-elle réussi à mettre à genoux la coalition saoudienne? Décryptage avec Arnaud Develay, juriste et analyste politique.
Alors pour comprendre et analyser effectivement cette dernière série d'attaques, il faut se positionner d'abord au premier niveau sur la situation militaire en elle-même dans la province de Ma'arib, province hautement stratégique que la résistance yéménite est sur le point de libérer, et ce depuis presque un an maintenant. Il se trouve que la dernière phase des opérations nécessite beaucoup de précautions parce que dans le contexte de la guerre médiatique déchaînée contre Ansarullah et l'armée yéménite, la dernière chose dont ces derniers auraient besoin, c'est d'alimenter le narratif selon lequel ils ne se préoccupent pas des civils. Donc dans ce contexte-là, les opérations sont difficiles dues au fait que les mercenaires employés par la coalition n'hésitent pas, eux, à prendre des civils en otage. Donc il faut agir et procéder de manière délicate et rationnelle. Le deuxième élément d'analyse, niveau d'analyse, c'est les pourparlers bilatéraux entre l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran, organisés sous l'égide de Bagdad, qui se déroulent depuis maintenant le mois d'avril. Visiblement, le dossier yéménite est sur la table, mais on peut penser que ce dernier n'avance pas dans le sens où on voudrait tous quelque part qu'il avance. Et que dans ce contexte-là, les Saoudiens, n'oubliez pas qu'ils sont quand même le prince héritier est assez isolé, non seulement parce qu'il est considéré comme un paria aux États-Unis, mais aussi au sein même du clan de la famille royale, où tous ces opposants, perçus en tout cas en tant que tels, ont été tous mis sous résidence surveillée ou carrément emprisonnés, qu'il a par ailleurs procédé à des purges au sein de l'armée saoudienne. Ça veut dire qu'en fait, même les militaires saoudiens ne lui font pas confiance. Il a essayé d'habiller ça de manière à présenter la purge comme un crackdown sur des gens qui auraient été soupçonnés de corruption, mais en fait c'est surtout une façon pour lui de préempter, si je puis dire, toute tentative de coup, dans la mesure où comme l'aventure yéménite c'est en train de se solder par un désastre dont les répercussions sont encore en cours d'évaluation, il essaye d'éviter de se faire renverser. Les seuls qu'ils soutiennent, ce sont les sionistes. Et c'est sur ce plan-là qu'il faut s'attarder, dans la mesure où on peut penser que la dernière chose que les sionistes veulent voir, c'est un rapprochement, bien sûr, entre Ben Salman et la République islamique d'Iran. Ce qui nous amène à conclure que les pourparlers bilatéraux, en tout cas perçus de la part de Riyad, ne sont en fait qu'une posture qui leur permet de gagner du temps, de lui permettre de gagner du temps, je parle de Mohamed Ben Salman, en espérant que le Royaume-Uni, qui s'est présenté un peu comme le successeur des États-Unis, qui eux semblent avoir laissé entendre qu'ils ne souhaitaient pas autant qu'avant, en tout cas, s'impliquer dans cette aventure militaire sans issue, ont pris la relève, si je puis dire, et ont déployé des commandos un peu partout, tantôt à l'est du Yémen et tantôt au sud. Récemment encore, ces derniers, donc les Britanniques, ont essayé, avec les Américains, d'ouvrir un front au sud afin de soulager la pression sur Marib, parce que ça reste, il ne faut pas s'y tromper, l'objectif principal de la coalition, empêcher la libération de Marib. Et cette opération a échoué lamentablement, puisque non seulement la pression est restée la même sur Marib, mais la résistance yéménite et l'armée yéménite ont réussi de manière fulgurante à mettre en échec cette tentative de diversion, enfin de diversion des ressources et d'ouverture d'un nouveau front. Donc la situation est dans un statu quo et les dernières attaques ne sont en fait qu'un message envoyé à la coalition que quoi qu'ils puissent penser et quoi que il puisse être question derrière les palais et les négociations entre guillemets de la coalition, les membres de la coalition, la résistance yéménite et l'armée yéménite feront face à toute tentative de dilatoire quant à la résolution politique du conflit, qu'il n'y a pas d'issue militaire possible sur le terrain, que les mercenaires envoyés par la coalition ne sont pas du tout à la hauteur, et que même les commandos et les forces spéciales américano-britanniques ne sont pas à la hauteur non plus, et que c'est inutile d'essayer dans ce sens-là de penser que le Yémen peut être défait militairement. Visiblement, le message semble avoir des difficultés à passer. Mais plus le temps passe, plus l'arsenal utilisé par la résistance yéménite s'améliore et l'usage qui en est fait est de plus en plus performant. Et on peut penser qu'à l'aune d'une situation où les pourparlers n'avancent pas, alors, et c'est d'ailleurs ce qui transpire de cette dernière vague d'offensive de l'armée yéménite et de d'Ansaroula, là, alors le sud saoudien deviendra plus que jamais le prochain théâtre d'opération. Et que dans ce contexte-là, la situation de Ben Salman va devenir de plus en plus intenable.